We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition de l'émission Passerelle PME, cette émission que des milliards de personnes en France, à l'étranger et au-delà s'arrachent chaque semaine. Et ce matin, c'est une émission extraordinaire puisque au lieu de la faire à deux, nous allons la faire à trois. Ça devient extrêmement collectif et nous recevons ce matin à la fois Emmanuel Leprince, qui est directeur de Pacte PME.
Bonjour Denis.
Bonjour Emmanuel. Et Frédéric Vacher de Dassault Systèmes.
Bonjour Denis.
Bonjour à tous les deux. Alors, on va inaugurer cette nouvelle formule. Vous savez que dans les formules de vente commerciale, il y a le fameux Sonka. Et dans le Sonka, il y a la nouveauté. Bah, aujourd'hui, on introduit la nouveauté pour mieux vendre. C'est le N. Et on va démarrer notamment, grâce à Emmanuel, assez régulièrement sur un petit point pratique de cette collaboration entre les grands groupes et les PME, avec deux angles bien spécifiques et qu'à chaque fois bah, tu alimenteras, commenteras, parce que c'est aussi ce qui fait ce petit point de jonction pratique, concret, pragmatique de cette collaboration que tu animes au sein de Pacte PME. Deux petits mots quand même de Pacte PME pour nos auditeurs, c'est bien de le rappeler.
Association créée en juin 2010, donc c'est quand même assez récent, avec 40 grands groupes et puis 40 organisations professionnelles. Il y en a 20 qui sont des organisations professionnelles classiques comme MEDEF, CGPME, ouais. Réseau Entreprendre, CJD, ouais. Et puis 20 qui sont des pôles de compétitivité. Et notre objectif, c'est de trouver les moyens pour que les grands groupes renforcent les PME, fassent que les PME, en tout cas les bonnes, deviennent des ETI.
Très bien, donc merci Emmanuel. On va revenir maintenant à notre invité de ce matin, Frédéric Vacher, toujours là.
Toujours là.
Toujours vaillant. Bon, on va parler de Dassault Systèmes. Alors, parler de Dassault Systèmes, et je crois qu'il faut le clarifier dès le début, et je pense que c'est important, Dassault et Dassault Systèmes, c'est bien deux choses séparées. Donc, on va oublier l'Inde et les avions pendant quelques minutes pour se concentrer sur le logiciel, sur le web, sur tout un tas d'applications fantastiques dont le monde est friand et un petit peu plus chaque jour du fait du développement des usages. Donc, Frédéric Vacher, vous avez été très longtemps responsable de tous les partenariats. Et maintenant, vous êtes à la stratégie. Alors, on va parler de votre passé et de votre futur, puis aussi du présent, du coup. Donc, c'est bien, on va faire un bond dans l'espace, en avant, en arrière. Alors, Frédéric, déjà, Dassault Systèmes, parlez-nous de Dassault Systèmes, parce que je suis assez persuadé, sans faire de sondage, que 99% des gens qui nous écoutent seraient incapables de faire la différence avec le reste du groupe.
Non, c'est exact. C'est important de préciser. Dassault Systèmes, c'est une société indépendante, éditeur de logiciels, numéro un dans son domaine, numéro un mondial. Deuxième éditeur en Europe, premier éditeur en France. Donc notre métier, c'est de développer du logiciel. Ouais. Historiquement, il est vrai que ce sont des technologies qui viennent de l'aviation, ce qui a permis de développer des avions. Et maintenant, depuis 30 ans d'expérience, l'ensemble de l'aéronautique mondiale design, donc conçoit, simule et produit ces avions en 3D, ouais, avec nos solutions. Sur cette base, évidemment, nous sommes étendus d'un point de vue marché par industrie. Donc le marché de l'automobile est aussi un gros marché pour nous.
Bien sûr.
Quasiment l'ensemble du marché, sauf le groupe GM, utilise aussi nos solutions. Donc si vous roulez dans une Peugeot, une Citroën, une Renault, ou bien une Volkswagen, une Porsche, une BMW ou une Toyota, vous roulez avec une voiture qui a été conçue en 3D avec nos solutions. Donc c'est de la 3D pour la production.
D'accord. Hein,
donc c'est destiné au départ aux bureaux d'études, aux ingénieurs qui vont concevoir les produits de demain. Par industrie, ben maintenant on traite l'ensemble de l'industrie mondiale, hein, donc l'ensemble des produits finalement manufacturés sont conçus en 3D. Ça peut être vos téléphones portables, vos télés, ouais, vos chaises, vos aspirateurs, vos bâtiments, les bateaux. Donc l'ensemble des produits sont conçus et simulés en 3D.
Dassault Systèmes, c'est combien de personnes aujourd'hui alors ?
Aujourd'hui, on est une société mondiale de 10 000 employés.
D'accord.
Une grosse partie de notre équipe est basée en région parisienne, ouais, sur un campus, ouais, qui est récent, sur Vélizy.
D'accord.
Nous avons ouvert un campus similaire dans la région de Boston, à Waltham.
D'accord.
Il y a deux mois.
D'accord.
Pour aussi réunir nos collaborateurs de l'Est américain.
D'accord.
Et ensuite, nous sommes présents sur 80 pays avec des labs, des bureaux de support, des bureaux de vente pour servir l'industrie mondiale.
Alors, on dit souvent que la France est une terre d'ingénieurs, qu'on est extrêmement inventif, on ne sait pas toujours vendre. Vous n'avez pas sacrifié aux États-Unis à la mode San Francisco. Il y a d'ailleurs plus d'ingénieurs disponibles. Est-ce qu'on trouve d'excellents ingénieurs là-bas, à Boston, aussi plus facilement qu'on en trouverait dans la Silicon Valley, ou New York maintenant qui se réveille et qui va vers le web?
Je crois qu'en fait c'est l'inverse. La,
ouais,
Silicon Valley nous recrute nos bons ingénieurs. On a de très bonnes formations d'ingénieurs, ouais, en France. On a aussi de très bons ingénieurs aux États-Unis, ouais, en Inde ou dans d'autres pays, mais C'est vrai que sur cette base-là, nous, on travaille énormément avec le socle d'emploi français.
Oui.
Du reste, pendant la crise, il y a 3 ans, on était peut-être une des rares sociétés à ne pas licencier.
Oui.
À préserver l'emploi, c'était une priorité de notre président. Ce qui a du reste beaucoup étonné nos collaborateurs américains, parce qu'en fait, ils voyaient la crise réelle autour d'eux. Et quand ils ont reçu un mail comme quoi la priorité, c'était la préservation de l'emploi, ils ont été le montrer à leur famille. Quoi. C'était à ce niveau-là.
Ouais.
Ça peut nous étonner, nous, Français, mais on ne s'est pas rendu compte qu'il y a 3 ans, en Amérique, c'était vraiment très profond, cette crise.
Oui, c'est clair. Et puis surtout, quand on se sépare de collaborateurs de ce niveau-là, on se sépare aussi d'une partie du savoir et du savoir-faire de l'entreprise. Donc, ça reste une ressource
complètement,
clé.
Complètement. Ouais. Nous, l'asset principal, ce sont les gens, leur savoir. Le logiciel, c'est une matérielle non tangible. Hein,
Donc, très bel acteur, Dassault Systèmes, donc une présence internationale, 10 000 personnes. Donc, finalement, et puis vous êtes vous-même, à titre personnel, finalement assez féru de ces partenariats, y compris parfois, vous me le disiez, avec des TPE, avec des PME. Donc, à un moment donné, il y a un savoir-faire, il y a une créativité, il y a une innovation. Et vous savez monter un partenariat avec elles pour faire en sorte que les deux en profitent.
C'est ça. Nous, la relation avec les TPE, PME, puisqu'on n'achète pas énormément, n'ayant pas de procédé de fabrication, c'est souvent des relations de partenariat.
Ouais.
Donc, effectivement, il y a une dizaine d'années, j'ai monté des programmes de partenariat pour développer des offres complémentaires sur notre plateforme pour servir l'industrie sur des technologies niches et pointues. Et donc, l'objectif, c'est, sur une base mondiale, de repérer quels sont les meilleurs d'un point de vue technologique.
Ouais.
Donc, ce n'est pas un programme dédié aux TPE-PME, mais c'est un programme global dans lequel les TPE-PME, si elles sont innovantes, ont complètement leur place. Donc, il nous est arrivé de signer des contrats de partenariat avec des grands groupes, éditeurs de logiciels, mais il nous est arrivé aussi de signer avec des petites et moyennes entreprises, voire des sociétés de 2 personnes.
Ouais. Et quand vous dites signer, ça veut dire que tout à coup, ils deviennent vos fournisseurs, ils deviennent... Quel type de partenariat on peut imaginer avec...
Alors, sur cette plateforme, ils deviennent des offreurs de solutions complémentaires.
D'accord.
Donc, ils portent leurs solutions sur notre plateforme, ce qui va leur permettre de toucher un marché beaucoup plus large que leur marché initial. Donc, typiquement, à titre d'exemple, on a bien travaillé avec certaines PME françaises, notamment Optis, qui est spécialisée dans la simulation de la lumière.
D'accord.
Et donc, ils ont porté cette spatialisation sur notre plateforme, ce qui leur a permis de toucher certains de nos grands clients à l'échelle mondiale.
D'accord.
Donc, quand on a démarré nos relations, ils étaient 15 uniquement sur le marché français. Maintenant, ils sont une 50aine et ils vendent à BMW ou des grands groupes.
Ouais. Donc, ça leur donne une visibilité forte.
Complètement.
Ouais.
Donc, ce ne sont pas des partenariats où on va leur fournir de l'investissement, mais on va leur fournir une plateforme technologique, du support, du coaching. Et de fait, de notre présence globale, avec un réseau de distribution très... très impressionnant, des clients aussi dans l'industrie qui touchent à l'ensemble de l'industrie mondiale, ben on va leur donner une sacrée visibilité et potentiellement un tremplin s'ils le prennent sur l'international.
Ouais. Alors, en plus, c'est bien pour Optis d'être mise en lumière, puisque c'est son sujet principal. On va faire un petit peu le tour des différentes possibilités de travailler. Alors, puisqu'on avait... on a Emmanuel aujourd'hui avec nous. Je vais lui poser tout à l'heure une question sur ce sujet. Est-ce que Dassault Systèmes, du fait de son statut finalement public, investit ou a du corporate venture, investit aussi au capital de sociétés où c'est pas du tout son truc, c'est vraiment du partenariat et rarement d'investissement au capital?
Alors on est plutôt sur du partenariat.
D'accord.
Effectivement. On n'est pas une société de venture capitaliste. Ça nous arrive d'investir, mais le vrai bon modèle pour nous, c'est plutôt du coaching.
D'accord.
De fournir une plateforme technologique qui est performante, qui est pérenne dans le temps, pour que ces sociétés puissent s'affranchir de ces développements d'infrastructures pour focaliser sur leur valeur ajoutée, sur leur là où ils sont bons, et de fait de bénéficier de cette plateforme comme un tremplin à l'international.
Ouais. Alors, quand on parle de coaching, on n'est jamais très loin de la formation. Et vous me citiez un exemple tout à l'heure d'une initiative que vous voulez pousser, que vous avez déjà commencé à initier sur du serious gaming. Donc, pour ceux qui ne seraient pas des initiés au serious gaming, effectivement, c'est l'idée de réintroduire la notion de jeu, de ludicité avec des technologies 3D, d'animation, etc., au bénéfice de la formation. C'était quoi l'objectif et comment voudriez pousser encore un petit peu plus cette expérience aujourd'hui?
Alors c'est vrai qu'on a eu un bon projet avec Emmanuel sur le serious gaming où l'idée c'est de faire développer ces nouveaux usages sur lesquels la France est un petit peu en retard. Sont des usages que l'on va retrouver soit aux États-Unis, soit dans les pays asiatiques, ouais. en Corée, typiquement.
Ouais, tout à fait.
Historiquement, plutôt par l'industrie du militaire ou de la défense ou de la sécurité, mais qui maintenant, de fait, de la génération de ces plateformes et de ces outils, peuvent servir à un public beaucoup plus large.
Bien sûr.
Ça peut être un salon de coiffure qui doit former ses employés, ou ça peut être des pratiques médicales ouais. dans lesquelles on doit immerger les gens pour les mettre en contexte et ouais. les former.
Ouais.
Et donc pour ça, on a des outils, on a une plateforme en ligne, et effectivement, on va faire en sorte que des TPE-PME innovants développent ces usages, c'est quelque chose qui nous intéresse.
Ouais.
Mais pas que. Finalement, Dassault Systèmes s'est énormément transformé ces dernières années et est passé d'une société B2B logicielle à une société web.
Ouais.
Maintenant, l'enjeu, c'est un enjeu de plateforme.
Ouais.
Et Dassault Systèmes va se positionner comme une plateforme d'expérience en ligne.
Au
même titre que vous avez YouTube pour la
Bien
vidéo,
sûr.
Vous allez avoir une plateforme Dassault Systèmes pour les expériences 3D en ligne.
Ouais. Donc en fait, l'objectif, finalement, c'est il y a une plateforme. Les gens innovants y viennent, ils peuvent, on dit entre guillemets, construire du contenu qui du coup va avoir une audience fantastique un petit peu à travers vous, développer des usages. Donc on va passer de la plateforme aux usages, ça devient une sorte de marketplace finalement dans lequel à la fois on construit et ensuite on donne de la visibilité.
Absolument, vous avez complètement résumé, et cette plateforme va servir de nouveaux usages dans des mondes virtuels autour de la 3D, va servir des usages autour des technologies de recherche. Cela ne vous a pas échappé que l'on a fait l'acquisition d'Exalead,
oui.
Qui est un moteur de recherche très performant et qui est au cœur aussi de cette plateforme cloud pour développer des search-based applications.
Oui.
Donc, des search-based applications, c'est quoi? C'est structurer des contenus à partir de crawling sur l'Internet de manière globale ou sur des bases structurées. Et structurer des pages en dynamique et présenter l'information qui était au départ demandé. Donc typiquement, je peux vous donner un exemple.
Ouais, exactement.
Ou deux exemples.
Deux exemples,
Voyage SNCF avec Exago.
Ouais.
Vous savez pas vraiment quoi faire, mais vous avez envie de faire quelque chose autour de la tauromachie, par exemple,
ouais.
plutôt dans le sud. Donc vous allez envoyer ces deux mots-clés dans le moteur de recherche qui va introspecter les bonnes bases de contenu et vous remonter des pages structurées et vous proposer tout ce qu'il faut pour faire un voyage autour
ouais.
de ça, des voyages, des horaires de train, des propositions d'hôtels, de restaurants, de spectacles, évidemment, de tauromachie. Un deuxième typiquement qui est d'actualité avec les élections.
Tout à fait.
Si vous allez sur lefigaro.fr, vous avez trouvé un service qui s'appelle Le Scan.
Ouais.
Le Scan va vous permettre d'avoir un baromètre en ligne temps réel du buzz de nos candidats, du buzz en ligne sur les sites web, sur les réseaux sociaux, et ça va vous remonter ces informations de manière complètement structurée, dynamique, sous forme de graphes. Donc vous allez pouvoir du coup faire des comparaisons entre différentes personnes. Et avoir en ligne le retour immédiat. Donc ça, ce sont des nouveaux usages qui sont disponibles et maintenant possibles
ouais.
grâce à ces technologies ouais. Exalead.
Frédéric Vacher, on va laisser la parole dans quelques instants à Emmanuel Leprince. Alors, de façon très pratique, moi je pense que c'est une opportunité extraordinaire hein, pour les PME que de se rapprocher de vous et de voir comment utiliser ces outils fantastiques. Et parce qu'on le voit aujourd'hui, notamment dans le transport, aujourd'hui acheter bêtement son voyage, c'est plus ce que veulent les gens, ils veulent effectivement quelque chose de plus contextuel, de plus intelligent, et puis ça revient aussi sur ces histoires d'intelligence artificielle et de tout ce qu'on peut mettre derrière. Mais comment est-ce qu'on se rapproche de vous? Comment est-ce qu'on vient vers vous? Comment est-ce qu'on cherche un partenariat avec vous? Pratiquement, on va pas donner votre téléphone portable à l'antenne, mais comment est-ce qu'on se rapproche de Dassault Systèmes?
Non, c'est vrai que bon, la plupart des choses se passent en ligne maintenant,
oui.
hein, sur exalead.com ou 3devia.com pour
D'accord.
mentionner ces deux plateformes.
D'accord.
En fait, on aide beaucoup les PME sans trop le dire.
Oui.
Typiquement, l'an passé, je pense que j'ai participé à la création de 6 ou 7 PME.
Oui.
Dans tout domaine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, avec ces usages en ligne, cette démocratisation de la 3D, on vise plus uniquement les industriels ou les éditeurs logiciels professionnels, mais les domaines sont nombreux. Je vais vous donner à titre d'exemple deux cas. L'an dernier, deux sociétés ont été créées dans des domaines que vous n'auriez pas imaginé dans lesquels
ouais.
des systèmes puissent aider. La médecine,
ouais.
L'éducation dans le domaine médical, avec une société qui du reste a développé en partenariat avec nous une expérience qui s'appelle Staying Alive, qui fonctionne vraiment très bien puisque vous immergez les gens dans une scène 3D et vous les confrontez à quelqu'un qui tombe en arrêt cardiaque.
D'accord.
Et de fait, vous avez 5 minutes pour apprendre les gestes qui sauvent.
Ouais. Fantastique.
Donc c'est un usage nouveau
ouais.
Qui peut s'adresser aux professionnels mais aussi au grand public. Donc, à titre d'exemple. Deuxième exemple, on a permis à un magicien de créer sa société,
oui,
qui exploite les technologies 3D pour, avec une Kinect, faire passer les objets réels dans le monde virtuel et vice-versa, et donner vie à ces objets virtuels. Donc, à titre d'exemple, vous prenez votre téléphone, il téléphone, il jette le téléphone sur l'écran, le téléphone, évidemment, il disparaît, puisque c'est aussi un très bon magicien, il apparaît en 3D dans l'écran, et apparaissant en 3D dans l'écran, et on va pouvoir fonctionner avec ce téléphone.
Avec ce téléphone.
Et donc, typiquement, prendre les gens en photo.
Ouais.
Et donc, ils vont se retrouver dans le téléphone 3D en photo. C'est complètement dingue.
Ouais.
Ou pianoter le numéro de quelqu'un qu'on aura juste demandé, ça va l'appeler réellement.
Ouais.
Donc, les usages sont nombreux et bienvenue à toute idée innovante. On va réfléchir à structurer justement un programme pour... de manière globale déployer ces relations, parce que c'est vrai qu'effectivement les relations étaient plus one-to-one, et si on veut vraiment travailler avec de nombreuses sociétés, il va falloir qu'on structure tout ça. Mais ce qui est important de retenir, c'est que Dassault Systèmes, c'est maintenant aussi une société internet pour développer des usages sur des plateformes d'expérience 3D ou des plateformes de recherche.
On va vite aller voir ça. Merci Frédéric Vacher. C'est vrai que c'était un beau focus sur cette boîte qui est quand même leader. Et il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est un point à la fois d'orgueil et d'espoir sur les technologies. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On va passer la parole maintenant à Emmanuel qui nous accompagne. À bientôt Frédéric.
Merci à vous. À bientôt.
Nous arrivons donc à l'issue de cette émission. On a toujours beaucoup de mal à se séparer, mais on va quand même se séparer en beauté avec Emmanuel, avec qui on va revenir. De façon générique cette fois, mais à chaque fois avec des points focus, avec des points particuliers sur finalement l'intérêt, la genèse de PAC PME, d'ailleurs l'intérêt que les grands groupes et les PME s'associent pour faire des choses, pour doper ces PME. C'est quoi cet intérêt général selon la définition d'Emmanuel Leprince et du PAC PME?
Oui, enfin, surtout des membres du PAC PME, les grands groupes et les PME. Mais je crois que c'est effectivement la bonne question. Et ce qu'on vient de voir avec Frédéric, c'est que les rôles que les grands groupes pouvaient jouer auprès des PME étaient en fait assez variés. On peut classer ça de différentes façons.
Oui.
La question effectivement, c'est dans quel cas est-ce que le grand groupe il trouve un intérêt pour lui-même? Parce que si c'est uniquement du citoyen, ça marche un petit peu, mais pas très longtemps.
C'est clair.
Donc le premier cas, c'est lorsque les PME ont une offre compétitive, une offre différenciée, c'est-à-dire quand elles sont innovantes, hein, pas forcément technologiques, mais en tout cas innovantes, et qu'elles peuvent apporter un gain au grand groupe. Donc pour le grand groupe, ces PME sont soit des fournisseurs, soit des partenaires, quel que soit le type de partenariat possible. Hein, ça peut être aller ensemble, trouver des marchés, à la fois pour le grand groupe et pour la PME. Ça, c'est le premier sujet. C'est un sujet qui est compliqué parce que ça demande au grand groupe de structurer des échanges d'informations.
Oui.
C'est pas facile d'être en relation avec des PME qui sont un peu partout, qui sont souvent sous le radar. Et puis également, ça lui demande, en tout cas lorsqu'il veut acheter après des produits ou des services à ces PME, de structurer autrement, d'adapter ses process achats.
Oui.
Les process achats ne sont pas adaptés à des petits marchés. Les achats, c'est des gros contrats et pour des bonnes raisons.
Oui.
Donc il faut pouvoir trouver moyen d'adapter ces achats. Ça, on y travaille beaucoup au PAC PME. Le deuxième rôle qui est fondamental et pour lequel le grand groupe trouve un intérêt à agir en faveur des PME, c'est lorsque ces PME sont déjà des fournisseurs.
Bien sûr.
Il y a 200 000 PME en France qui sont des fournisseurs de grands groupes. Les grands groupes ont intérêt à ce que ces fournisseurs soient en bonne santé,
c'est clair,
grandissent, aillent à l'international,
tout à fait,
renforcent leurs compétences, etc., etc. On a une meilleure structure financière. Donc là, il y a beaucoup de leviers, je dirais, possibles. Ce qu'on fait, nous, au PAC PME, c'est qu'on travaille à ces leviers de manière collective. Par exemple, on prend un fournisseur de Thales et on voit comment Safran ou Total peut aider ce fournisseur à aller sur un marché international. On est plus fort, plus nombreux. Et puis enfin, le dernier exemple qu'on peut citer de cas où les grands groupes, je dirais, peuvent soutenir des PME dans leur intérêt, c'est un peu en fin de cycle, c'est lorsqu'il y a des sujets de revitalisation de zones qui sont proches d'anciennes usines de grands groupes. Et là, effectivement, les grands groupes ont une mission, ils sont un petit peu forcés cette fois-ci, de faire en sorte que le tissu d'entreprise local se développe. Donc c'est les trois cas, un peu différents, tout compte fait.
Tout à fait.
Mais si on sort de ces cas-là, on est quand même dans des sujets un peu plus superficiels, qui ne sont pas en général très, très efficaces.
Emmanuel, un mot, mais qu'on abordera lors d'une prochaine émission. Est-ce que la tendance investissement des grands groupes par des véhicules ad hoc se renforce, réduit, stagne? Vous avez une vision là-dessus?
On assiste à une deuxième vague du corporate venture. Il y avait à peu près 600 corporate venture dans le monde dans les années 2000, puis ça s'est complètement cassé la figure ensuite. Là, on en est à 150, je crois, donc ça repart.
Ça repart.
Là, il y a une vraie question de l'objectif, vu des grands groupes, encore une fois, de ces véhicules. Est-ce que c'est purement financier, je ne crois pas, c'est pas avec ça qu'ils vont faire leur marge. Est-ce que c'est de la veille technologique et peut-être qu'on se rapproche un peu plus de leur intérêt,
ouais,
avoir des informations sur des tendances. Est-ce que c'est renforcer leurs fournisseurs? C'est pas forcément ça.
Ouais.
Est-ce que c'est acheter après ça à ces entreprises? Il y a un petit jeu qui est pas forcément très très clair avec ces outils-là, c'est que vu des PME, avoir dans son capital un corporate venture, on imagine que ça va être une porte ouverte au marché du grand groupe. Ça, c'est quelque chose qui est faux. Hein, les rôles d'investisseur et d'acheteur ne sont pas compatibles pour des raisons qu'on
bien évident.
Voilà. Donc, par contre, il y a d'autres intérêts à avoir des corporate venture autour de son tour de table, mais c'est pas de pénétrer le grand groupe.
On surveillera ça de très près. Merci Emmanuel Leprince. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle intervention dans Passerelle PME. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite sur Passerelle PME, l'émission des relations entre les grands groupes et les PME. À bientôt, au revoir.